Salut tout le monde, dimanche soir, 19h, vous êtes en live sur Géopolitique Profonde comme tous les dimanches. Évidemment, c'est le rendez-vous, le grand rendez-vous hebdomadaire. Alors avant ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur le YouTube de Géopolitique Profonde. C'est en bas, il y a marqué rejoindre, vous cliquez dessus, vous aurez de nombreuses surprises. Voilà, on a préparé ça pendant toutes ces vacances de Noël, histoire de vous apporter plein de surprises si vous rejoignez le club Géopolitique Profonde. Voilà, c'est en bas, c'est marqué rejoindre, vous cliquez dessus et voilà, vous vous laissez guider, c'est très facile. Ce soir, je suis avec Laurent Firode, réalisateur, excellentissime réalisateur, aussi de grands films, de longs métrages, mais surtout d'un que vous aimez tous, vous avez tous aimé, d'ailleurs j'y suis allé deux fois, c'est Le Monde d'après. Et les deux fois où j'y suis allé, eh ben, c'était pas comme dans un film français avec Alex Lutz à 10 000 spectateurs. Non, c'était vraiment blindé. On peut dire qu'il y avait vraiment, vraiment du monde et c'est un carton. Donc voilà, je vous y invite à aller voir Le Monde d'après. Et là, on est ce soir avec Laurent Firode pour parler du film, mais aussi du cinéma français. Des acteurs français, du pourquoi est-ce que nos amis acteurs ont perdu leur langue hein, pendant cette crise sanitaire. Et on va justement parler de la crise sanitaire, de la vision des comédiens et de la culture. Bonjour cher Laurent, comment ça va?
Ben, ça va très très bien, ravi d'être ici, donc impeccable. Enfin, si dans l'émission, parce que sinon je suis chez moi en ce moment.
Voilà. Donc... raconte-nous un peu la genèse, le monde d'après. Alors, évidemment, comme on est sur YouTube, il faut dire crise sanitaire. Voilà, ça c'est le mot.
Bien sûr.
Donc, raconte-nous un peu la genèse de ce film.
Eh ben, la genèse de ce film, en fait, tout est parti d'un court-métrage que j'ai fait en janvier dernier, donc il y a maintenant à peu près un an, à l'occasion d'un festival qui a lieu d'ailleurs encore cette année, qui s'appelle « Ça tourne en Ile-de-France ». Et il y a une comédienne, une copine à moi, qui m'a inscrit et j'écris un petit film comme ça, très très facile à tourner, où il y a trois personnages qui se parlent. Et comme j'avais un peu gros sur la patate avec toute cette histoire de folie, etc. Donc j'ai écrit un texte un peu rentre dedans. Donc on le tourne, on le fait. Et évidemment, je ne suis pas du tout surpris quand je vois que le festival me refuse le film, bien sûr. Hein. Mais comme j'avais une espionne parmi les membres du jury, je lui demande, mais alors pourquoi au fait on me refuse? Parce que là on me dit, bah voilà, donc le film, tout le monde a tout ça très bien, mais le festival, il a des subventions, donc on ne veut pas trop faire des films un peu politiques, etc. Donc on le refuse. Je me suis dit, bah c'est bien, donc j'ai vraiment bien appuyé là où ça fait mal, et ça m'a donné envie d'en faire en fait un long métrage. Donc j'ai poursuivi, j'ai écrit, j'ai tourné, et voilà, et le film a été fait en. Le film se situe en janvier 2022, c'est marqué sur le début du film. Et en effet, je l'ai tourné en janvier 2022 et je l'ai à peu près terminé en mars, etc. Et il est sorti en octobre dernier. Et il est toujours en salle parce qu'en effet, comme tu disais, Mike, c'est le film, il remporte un succès assez étonnant. Et puis on a eu aucune promo nulle part. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'était un film qui a été fait de manière un peu sauvage, comme ça. Mais voilà, ce sont des sujets qui sont brûlants. Donc, je crois que les gens en avaient vraiment besoin.
Mais ce qui est dingue, c'est que, voilà, toi, tu as préparé un court-métrage sur la crise sanitaire.
Oui.
Donc, c'est de l'art, c'est de la culture.
Oui.
Dans l'art, on dit, on montre et on dit ce qu'on veut. Voilà. Mais pourtant, oui, aujourd'hui, les patrons de... Enfin, théoriquement.
Oui, voilà.
Les patrons de festivals, ils te disent, non, vous ne dites pas ce que vous voulez. Vous parlez de politique, mais d'un sujet qu'est la crise sanitaire de façon non politiquement correcte.
Voilà.
Donc, on ne vous l'accepte pas.
Exactement.
C'est quand même quelque chose.
Ah non, mais ça, je veux dire, aujourd'hui, il y a... C'est-à-dire que le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une censure super violente, mais il n'y a pas de maître censeur. Les gens s'auto-censurent eux-mêmes. Donc après, là, je dirais que c'est parfait pour un État totalitaire, hein, en fait. Hein, c'est que les gens, comme ils s'auto-censurent, on est mort, quoi. Donc voilà, donc moi, je suis passé... je ne suis pas passé à travers les mailles du filet. Hein, j'avoue que j'ai eu du mal à sortir le film. Hein, le film, quand même, j'ai tapé à beaucoup de portes de salles, d'exploitants, etc. Et finalement, bon, il a donc été pris dans un cinéma à Paris. Et maintenant, comme le film fait un joli succès, bah, il part en province, etc. Donc voilà. Mais ça a été le parcours du combattant, parce que voilà, c'est un film hors norme, c'est pas un film avec, bah déjà c'est un film sans subvention, c'est pas un film avec des comédiens bankable, comme on dit, ce sont des comédiens professionnels et formidables, mais qui ne sont pas connus du grand public, et après, surtout, ce sont des sujets très très brûlants, je dirais, donc il y a la crise sanitaire, mais aussi il y a d'autres sujets aussi également qui sont complètement tabous, quoi, donc dont on ne parle jamais.
Bien sûr, mais il y a la crise sanitaire, etc. Il y a la crise sanitaire, mais il y a surtout les travers, et pour le coup pas tellement grossis, hein, parce que ce sont les travers que l'on voit, ce sont des expériences qu'on a tous vécues, mais les travers des gens à la suite de cette crise sanitaire. Par exemple, moi j'ai un exemple très précis, c'est celui des instituteurs qui parlent entre eux, et ils trouvent leurs enfants, les enfants qui instruisent magnifiques, parce que par exemple l'une d'elles, on lui a dit que si elle enlevait le masque, eh ben elle tuerait son grand-père, bon voilà. Et donc du coup elle a envie de vomir parce que bon bruit que c'est grec raison, et plutôt que d'enlever son masque elle préfère vomir dans son masque et être elle-même hospitalisée, et ça c'est des choses qui existent pour le coup.
Ah mais bien sûr, de toute façon cette anecdote elle est vraie, hein, donc je n'ai rien du tout inventé. Le film en fait fait à chaque fois un recensement, c'est un témoignage sur cette période épouvantable qu'on a tous vécue, et j'ai voulu faire un film témoignage, en fait, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, les médias, le pouvoir, tend à nous dire, oui, tout ça, bon, voilà, c'est du passé, voilà, on oublie, tout s'est très, très bien passé, on a été extraordinaire et formidable, mais voilà, c'est du passé. Mais hélas, non, ce n'est pas du passé, ça se maintient encore dans beaucoup d'endroits, il y a encore des choses complètement folles, et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier pour qu'on arrive enfin à vivre ensemble. Voilà, l'histoire est là. C'est-à-dire qu'au final, je pense qu'on ne peut pas faire table rase du passé comme ça. Je pense qu'il faut en effet se souvenir pour pouvoir à nouveau vivre ensemble en communauté et en harmonie.
Est-ce que les gens oublient cette période ? Moi, j'ai l'impression que si demain je pose la question à quelqu'un, oui, est-ce que vous vous rappelez le nombre de couvre-feux ou le nombre de d'enfermements, je vais dire enfermement plutôt que le terme générique. Voilà, je m'auto-censure, désolé.
T'as raison,
c'est pour les algorithmes. Hein. Voilà.
Exactement.
Est-ce que justement les gens commencent à ne plus se rappeler de cette période?
Bah, je crois que, enfin, moi en tout cas, parce que j'assiste souvent aux projections de mon film et il y a à chaque fois souvent un débat après coup, donc j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Non, c'est resté en travers de la gorge, hein, je veux dire, c'est un peu normal. Moi-même d'ailleurs, je m'en souviens très bien, mais bien sûr, il y en a certains autour de moi. C'est-à-dire que je crois que c'est plus une volonté d'oublier le passé que vraiment, tout le monde s'en souvient très bien, ça j'en suis persuadé. Il y en a certains, bien sûr, qui ont été du côté obscur de la force, je dirais, qui eux veulent nous faire croire que c'est du passé, voilà, on oublie, tout s'est très très bien, très 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 bien déroulé. Et les autres, pour lesquels ça s'est pas très très bien passé et qui ne veulent pas oublier. Et je pense que mon film s'adresse aux deux d'ailleurs. Hein, mon film, en fait, sous couvert quand même d'humour, parce que c'est surtout, j'ai voulu avoir un regard critique sur cette période de folie, mais en prenant une distance. Voilà, je ne voulais pas faire un film polémique, militant, agressif.
Mais justement, pourquoi ne pas avoir fait un film premier de... Parce que c'est un film à sketch, en gros, voilà.
Oui, pour le dire. C'est un film à sketch, complètement.
Et pourquoi ne pas avoir fait un film, on va dire, premier degré?
Oui, parce que le film premier degré aurait certainement entraîné un côté, je dirais, un peu agressif, alors, revanchard.
Alors, excuse-moi, cher Laurent, on me dit que voilà, le petit bruit là que j'ai dit tout à l'heure, il revient toujours.
Il revient toujours, ah merde, d'accord. Alors, peut-être que je vais enlever ça.
Allez, on essaie. C'est le direct, hein, les amis, c'est là, le direct. C'est... Ah ben voilà, est-ce super. Que c'est...
Alors t'entends. Oui, est-ce que tu m'entends bien là?
Moi, je t'entends très bien. Toi, tu m'entends?
Moi, je t'entends bien aussi. Je t'entends pas mal.
On s'entend et on peut continuer sans le bruit de chips, en gros. Le
casque iPhone de la merde. Bon, donc alors,
pourquoi ce premier degré? Pourquoi pas ce premier degré, justement?
Parce que je ne voulais pas justement que ce film soit entrait un côté revanchard, un peu qui aurait un côté agressif, qui nous aurait, parce qu'en fait voilà, ce qu'ils cherchent tous, hein, c'est-à-dire que du côté du pouvoir, ils cherchent quoi ? À nous imposer la peur, pour nous soumettre. Et je me suis dit quand même, la meilleure réaction à ça, c'est en fait l'humour. C'est-à-dire que comment faire peur à quelqu'un qui rit ? Ça, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai voulu prendre cette distance avec toutes ces horreurs, avoir un regard vraiment distancié et humoristique pour bien leur faire comprendre que, ben non, on ne marchera pas encore une deuxième fois. C'est-à-dire que la peur, c'est bon, vous la gardez vous-même. Voilà, donc c'est bon. Donc, voilà, vous nous avez pris pour des abrutis, ça ne marche plus, quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit que l'humour permettait cette distanciation et prendre du recul sur les choses et bien aussi ne pas utiliser les mêmes armes qu'eux, quoi. Voilà. Voilà en fait, c'est ça, parce que en face on a bien vu.
Est-ce que ça ne marche vraiment plus ? Parce que des personnages, il y a certains de tes personnages qui sont
ils sont matrixés complètement, évidemment, bien voilà. Sûr, mais ce sont des personnages, mais comme on les montre comme ça d'une manière crue, avec cette distance et toujours avec un regard humoristique quand même, et c'est là où on s'aperçoit que on nous a pris vraiment, nous, pauvre humble peuple, pour des imbéciles. Et donc voilà, et en fait, nous ne le sommes pas. Donc évidemment, c'était, je dirais que le but du jeu dans mon film, c'était de dire arrêtons de nous prendre pour des cons. En gros, c'est ça, quoi, voilà. Donc, et je pense que le rire, bah, c'était le meilleur moyen, en effet, pour qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, tout simplement.
Est-ce que... parce que c'est toi qui as fait aussi, qui a écrit ce scénario. Est-ce que le scénario de l'ensemble de ces sketchs, ouais, ce film, oui, est-ce que c'est quelque chose que tu as imaginé ou est-ce que tu t'es inspiré de situations vécues ?
Alors bah, oui, c'est vrai que je me suis pas mal inspiré, hein, de choses que j'avais pu entendre ou même où j'avais été témoin ou même quasiment acteur, hein, dedans. Y a beaucoup de choses qui sont inspirées du réel. Après, évidemment, bon, quand on écrit un scénario, on s'inspire du réel, on ajoute après des choses, on mélange un peu le tout pour que ça soit beaucoup plus efficace, hein, parce que je voulais aussi garder un film quand même qui soit agréable à voir, qui soit pas chiant, tout simplement, qu'on puisse rigoler, mais d'un rire intelligent. Voilà, qu'on se dise enfin. Arrêtons de nous prendre pour des imbéciles et voilà, et qu'on ait ce recul, cette distance. D'ailleurs, je le vois bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand le public sort de la salle, c'est la première remarque, quoi, qu'on me fait. C'est-à-dire que déjà, les gens sont étonnés qu'on puisse en parler dans un film de fiction, parce que ça, ils ne le voient nulle part. Et deuxièmement, ils sont étonnés aussi et agréablement surpris qu'on puisse en rire, en fait, on puisse en parler et en rire. Mais c'est pas un rire, je dirais, c'est un rire qui veut être, qui se veut avoir un regard intelligent sur les choses, c'est pas juste du burlesque, quoi. Voilà, j'ai pas voulu faire un film rire pour rire, non, évidemment, c'est rire pour ne pas se sombrer dans justement le côté un peu, je dirais, revanchard, militant et aigri, je dirais, voilà. Et donc c'était pour avoir ce sourire, cette distance, pour qu'on puisse passer à autre chose, enfin, en fait.
Alors, en effet, bon, tu as eu sur ce festival un refus d'un court-métrage, oui, mais malgré tout, tu es quand même un réalisateur qui vient, je dirais, je vais pas dire du système, mais je veux dire, t'es pas un réalisateur nouveau. Non. T'as fait des longs métrages, t'as réalisé des longs métrages. Ouais. D'ailleurs, sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Film à l'arrache, tu as un nombre de comédiens mais importants, par exemple des comédiens de scènes de ménage vous connaissez tous. Alors, je sais plus comment s'appelle le gars qui joue le maire. Ou le gars qui joue le fiancé de la prof,
Julien Pestel, tout ça, ce sont des gens. Bien sûr, non.
Tu connais très bien ce milieu parce que tu viens de ce milieu. Comment ça se fait que toi, tu as décidé par ce film de dénoncer cette crise, et alors que on ne peut pas dire que dans ce milieu, on l'est beaucoup ouverte.
Bah non, bah c'est justement, c'est pour ça que j'ai ouvert ma gueule en fait, hein, parce que ça commençait à m'énerver un peu tout ça, de voir que tous les collègues, enfin je dirais collègues, oui, quelque part, nous sommes une grande famille, hein, je dis ça sans ironie, je dirais que voilà, donc bah, tout le monde se taisait, bah, pourquoi ? Parce que voilà, les gens sont dans leur petit confort, ils veulent pas ébranler le système. Donc moi, ça m'a un peu agacé, c'est vrai, et c'est vrai que comme tu disais, mec, en effet, moi j'ai toujours eu une carrière, en fait, je dirais en duo, c'est-à-dire que j'ai fait des films dans le système, hein, je ne m'en cache pas du tout, j'ai fait beaucoup de téléfilms pour France 2, France 3, Arte, des films aussi, de commandes, hein, j'ai fait des films de commandes, tout ça. Donc, mais à côté, en parallèle, je faisais toujours des films de court-métrage principalement, où personne ne me disait « fais ci, fais ça », donc j'en faisais qu'à ma tête, hein, donc j'ai abordé souvent des sujets un tout petit peu polémiques, hein, même avant cette fameuse crise sanitaire, donc j'ai fait des films qui étaient un peu rentre-dedans sur beaucoup de sujets un peu politiques comme ça, mais comme j'étais dans le court-métrage, bah, le court-métrage, oui, là je veux dire qu'il y a plutôt quand même une certaine liberté parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier en fait. Et en réalité, quand j'ai fait ce long métrage, là, Le Monde d'après, je me suis dit tout d'un coup, mais pourquoi se limiter au court-métrage pour avoir cette liberté quand je pourrais faire de la même façon un long métrage. Donc c'était un peu un challenge, un défi, et voilà, et donc maintenant le film existe, le film remporte un succès, le film est en salle, il va bientôt sortir en VOD, donc je dirais qu'il va avoir une carrière, je dirais, comme un film normal, quasiment, quand c'était un film totalement anormal en fait, parce qu'il n'a aucune subvention, etc., il n'a été soutenu absolument pas par le système, et néanmoins il vit parce que le public est là, en fait c'est un film qui existe grâce au public, uniquement grâce au
mais,
public.
Mais est-ce que tu t'es pas dit, voilà, on m'a fait des commandes de France, de France 3, j'ai travaillé avec tel grand acteur, j'ai réalisé avec tel réalisateur, est-ce que tu t'es pas dit, si je fais ce film, ma carrière est peut-être fichue?
Non, je crois pas, parce qu'en fait, c'est-à-dire que ce qui va se passer, à mon avis, c'est-à-dire que on va se dire, bon, bah, c'est-à-dire que voilà, si le film avait été un échec, voilà, je fais un film un peu, je dirais, borderline au niveau politique, etc. Donc, et là, le film ne rencontre aucun succès, là, en effet, je m'en serais pris après coup plein la gueule, c'est certain. Comme là, le film, il dure, ça, par exemple, ça fait depuis 12 semaines qu'on est en salle à Paris, bah, donc c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire que quand on voit la carrière des films français aujourd'hui, un film qui dure 12 semaines en salle, c'est quand même excessivement rare. Donc ça, mine de rien, le système, malgré le fait que, bien sûr, j'aborde des sujets qui sont hyper touchy et un peu tabou, tout ça, voilà, il reconnaît cette chose-là, et au contraire, là, aujourd'hui, je pense être en mesure même de pouvoir avancer sur d'autres films, d'autres projets, parce que justement Le Monde d'après est un succès et que je vais pouvoir enchaîner, peut-être pas dans le système complètement, et en plus j'ai pas trop envie en fait, voilà, bah, c'est-à-dire que je pense que quand on fait un film hors système qui dénonce le système, si le film est rattrapé par le système, on est un peu, je dirais, on est un peu hypocrite avec soi-même et avec le public. Donc moi, donc dans les faits, donc je vais poursuivre, donc déjà je tiens à dire, bon là c'est la, voilà, j'ai fait Le Monde d'après 2, la suite, hein, donc qui va sortir très 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 bientôt également, donc c'est pareil, ce sont des sujets impossibles à dire à n'importe où, que vous ne verrez jamais sur une chaîne télé ni même au cinéma, grand public, je dirais, mais voilà, mais donc j'enchaîne, mais en même temps, voilà, comme le film remporte un succès, bah voilà, donc on peut se permettre. Alors, de faire
est-ce que ça signifie par exemple que, je sais pas moi, une Sophie Marceau, une Catherine Deneuve, un Omar Sy, ou je sais pas, un acteur un peu connu, peut faire quelque chose d'excessivement transgressif, et donc du coup, il ne serait pas embêté s'il y a succès, quoi. C'est-à-dire, s'il y a...
C'est que ça le
marqueur.
Voilà, c'est-à-dire que ça c'est vraiment essentiel, je pense, si un film remporte un très très gros succès, après évidemment quand même le dernier mot appartient toujours au public quand même, même si après bien sûr le film se fait démonter par la critique bien pensante, comme le mien, hein, je dirais, moi Moi, je porte ça comme une médaille, mais je me suis fait incendier par Télérama, etc., qui m'ont traité de tous les noms. Mais je dirais, c'est pas ça qui fait que le public ne vient pas voir le film. Au contraire, je dirais, à chaque fois, les gens me disaient, mais voilà, c'est parce que le film a eu une mauvaise critique dans les journaux progressistes à deux balles, comme Télérama, par exemple, qu'on vient voir ton film. Donc voilà, donc c'est plutôt, je dirais, des choses qu'on met, on accroche comme ça en médaille, quoi, en fait. Voilà, des mauvaises critiques. Ah, j'ai une petite panne. Tu es bloqué, Mike, sur que se passe-t-il? Est-ce que tu m'entends? Moi, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Pourtant, j'ai une bonne connexion. C'est la merde. Que fait-on? Aïe, aïe, aïe. Gros souci. Est-ce que ça remarche?
Je suis là, excusez-moi, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Moi non plus. Voilà.
Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une panne chez moi, je suis désolé. Merde, excusez-moi, il y a eu une panne chez moi. Pif, comme ça d'un coup, tout a...
C'est les aléas voilà. Directs. Hein, voilà,
est-ce qu'on a été victime de coupure EDF? Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois. J'ai eu, voilà, on m'a coupé le sifflet, désolé, voilà, bon, on revient.
Voilà.
Je voudrais parler du cinéma français.
Ouais.
Voilà, on a vu cette année que pour la première fois de l'histoire du cinéma français, on était, on n'a pas de film français dans les 10 premières du box-office. Comment toi tu l'expliques aujourd'hui?
C'est-à-dire, ouais, j'explique assez facilement, hein, quand on voit les bandes-annonces déjà des films qui vont sortir et les sujets évoqués, C'est vrai que ça ne donne pas tellement envie de voir des films français, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de les avoir déjà vus quand ils ne sont même pas sortis. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a un système qui est ce qu'on appelle l'exception culturelle française. C'est-à-dire que l'exception culturelle française, c'est-à-dire qu'on injecte énormément d'argent dans le cinéma français pour le faire survivre, en fait, mais c'est en réalité, c'est-à-dire qu'on le gros souci, c'est-à-dire que les bon, je prends un exemple tout con.
Vas-y.
Quand on cherche à faire un film, on a écrit son scénario, on va avoir des producteurs, on raconte l'histoire, dans le meilleur des cas, si on a des bonnes relations avec ce producteur. Et le producteur, il ne va jamais se dire, tiens, ton film me semble intéressant, ça peut intéresser le public. Non, il va se poser une seule et unique question. Est-ce que ce film va pouvoir obtenir des subventions et un financement? Uniquement. C'est la seule chose qui le préoccupe. Parce que lui, il va vivre là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les films sont faits, ils sont réalisés, ils existent parce que les sujets et les gens qui vont tourner dedans ont permis d'obtenir ces subventions. Et quand on sait que ces subventions, c'est soit de l'argent de l'État via le CNC, soit, encore pire, parce que ça, je crois que tout le monde l'ignore, ce sont des obligations d'investissement. Et quand je dis obligations d'investissement, ça veut dire que les chaînes télé, etc., sont obligées d'investir de l'argent dans le cinéma français. Donc, ils doivent donner de la thune. Donc, voilà. Donc, le truc, c'est que, évidemment, comme personne ne pense à se dire, tiens, je vais faire un succès ou pas, parce qu'en fait, quand un film est fait, par exemple, on va prendre un exemple, le film de Gérard Jugnot qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, Le Petit Piaf, qui a été un échec énorme. Je crois que la moyenne par séance, c'est 4 personnes. Il y a 4 personnes par séance.
Wow, c'est chaud.
C'est quand même chaud, quoi. Quand le film a coûté, je crois, 7 millions d'euros, un truc comme ça. Mais le gros problème, c'est que tout le monde a été payé largement, grassement. Tout le monde a déjà s'en est mis plein les poches. Mais bien qu'il n'y ait personne dans les salles de cinéma. C'est ça le problème. Parce que comme le film, grâce à cette exception culturelle française, bah, l'argent afflue, donc on prend l'argent, et après, si ça ne rapporte rien, je dirais que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde est déjà bien, bien, bien payé. Mais après, bien sûr, s'il y a un succès, tout le monde est content quand même, évidemment. Mais néanmoins, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de trouver l'argent des financiers, et après, en bonus, je dirais, en cerise sur le gâteau, si le film fait un succès, tant mieux. Mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de trouver l'argent des subventions.
C'est-à-dire que ce soit les acteurs, enfin, que ce soit les producteurs et les acteurs qui puissent gagner de l'argent. Oui, mais les salles de cinéma, elles ont quand même un but de remplir leur salle de cinéma. Si ces films ne marchent pas,
Bien sûr. D'ailleurs, c'est bien pour ça que l'année dernière, à Cannes, où tout le monde était là à pavoiser en disant le cinéma, ça va hyper bien, tout va très bien, tout le monde a ses petits fours et sa coupe de champagne, il y avait les exploitants de salles qui disaient, attendez, ça craint énormément pour nous, c'est que après justement la crise sanitaire où les salles avaient été fermées d'office, hein, ben les gens ne reviennent pas dans les salles, et bien sûr, donc les salles sont vides, donc les exploitants ils tirent la langue. Alors, mais pareil, je dirais, ils sont également aidés, c'est-à-dire qu'ils ont également des aides, tout ça. Donc après, c'est pour ça que je dirais dans un système à peu près neutre du point de vue commercial, voilà, il y a plein de gens qui seraient déjà sortis du système. Mais là, comme ils sont archi aidés, archi subventionnés, le système perdure en fait. Mais il perdure pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que je pense pas que c'est comme ça qu'on va aider le cinéma français en injectant de l'argent toujours aux mêmes personnes. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ça la grande famille du cinéma, parce que évidemment l'argent circule entre eux uniquement. Donc c'est bien pour ça qu'on voit toujours les mêmes.
Ce système, j'ai l'impression qu'il favorise aussi la censure pour le coup.
Bien sûr, évidemment, absolument, parce que personne ne veut prendre de risques, et comme qui donne l'argent, qui a mis en place cette exception culturelle, bah, c'est l'État en fait. Hein, donc on est dans un système complètement soumis à l'État, soumis aux médias également, qui sont également soumis à l'État, etc. Enfin bref, tous les gens qui détiennent le pouvoir, ce sont eux qui ont l'argent et pour pouvoir financer le cinéma, et c'est bien pour ça qu'il est impossible de faire un film anti-système, vu que c'est le système qui donne l'argent au cinéma.
Donc voilà, c'est est-ce un peu... que, par exemple, toi, quand tu es allé, j'imagine que pour créer des films, tu as dû aller parfois au CNC.
Oui, alors, enfin, bon, il y a même à une époque, j'étais lecteur au CNC. Je faisais partie des gens qui disaient, ah oui, là, non, on ne va pas donner d'argent, là, on va
Ah
donner
d'accord, comment ça se
l'argent.
passait? Tiens, bah, raconte-nous, ça, je ne savais
Donc,
pas.
ça, je l'ai fait, ça. Donc, j'y ai assisté. Donc, je sais comment ça marche. Et c'est assez extraordinaire, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai remarqué, on y reste à peu près à chaque fois une année. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand les projets arrivaient, eh bien, les projets qui étaient défendus, où il y avait une vraie volonté artistique, il y avait un vrai truc quoi, derrière le film, il y avait toujours quelqu'un qui disait, c'est-à-dire qu'il suffisait que par exemple, que je défende un film pour qu'il y ait en face de moi quelqu'un qui disait, ah non, je trouve pas, moi, je pense qu'au contraire, patati patata. Donc il y avait une discussion, il y avait une polémique. Donc le film était écarté. Tandis que tous les films qui passaient, en fait, ce sont les films où personne n'avait rien à dire. On disait, oui, bon, ouais, bon, oui, pourquoi pas, oui, on s'en fout,
Et
en fait.
donc, cela
Pourquoi?
recevait de l'argent.
Ah ben, cela, il passait à chaque fois. C'était le consensus. C'est ça qui est terrible avec un consensus. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, c'est parce que c'est tellement tiède et tellement fade, que voilà, ben, les gens disent, oui, je ne peux pas être contre. Ça ne dit rien, ça n'évoque rien, c'est complètement plat. Donc voilà, et ces films-là, c'est vrai qu'ils passaient à chaque fois. Allègrement au deuxième tour. Moi, vous savez, ça se passe en premier et deuxième tour. Moi, j'étais là pour la sélection pour le deuxième tour. Donc, voilà. Et après, en effet, on voit bien que les subventions, elles sont souvent accordées par des gens qui sont eux-mêmes, qui font partie des gens qui décident à savoir à qui on va donner la subvention. Et là, ça se passe d'une manière totalement folle aussi. C'est-à-dire que si autour de la table, il y a quelqu'un qui a déposé un projet, ou tout du moins quelqu'un qui est proche de la société de production ou d'un comédien, etc., qui a déposé le projet, cette personne, quand même, par honnêteté, sort de la salle au moment où on va délibérer, et après elle revient. Donc, évidemment, les gens, quand la personne revient, on ne va pas lui dire, ah ben, tu sais, on a tous dit non, en fait. C'est impossible. C'est absurde. Donc forcément, on dit oui. Donc c'est une situation totalement ridicule. Donc voilà, ça aussi, j'y ai donc assisté à ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est des compléments pipés. Et voilà, et les systèmes, ils marchent comme ça. Et on voit bien qu'il y
Mais
a des
si par
gens qui font
exemple,
des
là,
films.
j'envoie un scénario et je dis, bon, bah, dans ce
Oui.
scénario, il y a Monsieur Gérard Jugnot qui sera de rôle-titre.
Oui.
Est-ce que par exemple, d'avoir un acteur qui soit une tête d'affiche permettra facilement d'avoir des subventions?
Alors, il ne permettra pas facilement d'avoir des subventions, mais en tout cas, c'est la condition essentielle. C'est-à-dire que s'il n'y a personne de connu, ce n'est pas la peine. On dégage. C'est-à-dire que je dirais, ce n'est même pas des gens connus forcément du grand public, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont, par rapport au système, dits des bankables, c'est-à-dire qui amènent de l'argent, mais en fait, ces bankables ne ramènent en fait personne hein, réellement. Mais bon, on nous fait croire, à nous, voilà, humble public, que ce sont des bankables qui sont vraiment demandés par le grand public. Quand il y a énormément de comédiens qui ne sont pas du tout demandés par le grand public, mais ces comédiens permettent en effet d'avoir des subventions parce qu'ils font partie du système. Voilà, ils font partie des comités, des jurys, etc. Donc, ce sont eux-mêmes
C'est-à-dire
qui.
qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire comme Belmondo et Delon qui étaient deux producteurs et qui mettaient leur argent pour se mettre en vedette dans un film. Ça n'existe plus, ça, par exemple, en France.
Ça existe un peu. Hein, tu parlais justement de Omar Sy. Hein, Omar Sy, par exemple, est producteur sur Tirailleurs. Ben, il n'est pas producteur à 100%, mais il a une partie en production. Donc, il y a encore des comédiens qui mettent. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, un producteur ne va jamais mettre son propre argent sur un projet.
Et
Il
pourtant,
va
c'est la
dire.
base du métier.
Ben, oui, mais ça, c'était dans le monde d'avant. Maintenant, le monde
Ouais,
d'après,
le monde d'après,
c'est
c'est pas c'est plus ça.
terminé. Je veux dire que complètement terminé. Non, non. Alors là, mais hein, je ne connais pas un producteur qui va mettre un centime dans un film. Ça, c'est impossible.
Alors,
Ils vont juste se
c'est
dire,
dingue ce que tu dis. C'est-à-dire que
j'ai mon,
le
oui, j'ai mon.
producteur dont la fonction est de financer des films,
Non.
aujourd'hui, ne met plus son argent pour financer des films.
Non, 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 c'est ça, voilà. Le producteur, sa fonction, c'est d'aller trouver de l'argent. C'est pas de financer le film. Attention, ça n'a rien à voir. Voilà, donc le producteur, voilà, un bon producteur, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses très 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 important, qui obtient des rendez-vous très rapidement avec les gens qui ont vraiment les cordons de la bourse, c'est-à-dire les gens dans les chaînes télé, les gens, etc. Voilà, donc eux, ils sont vraiment, ou au CNC, donc eux, ils sont vraiment, ils tiennent les cordons de la bourse. Et un bon producteur, c'est quelqu'un qui les connaît personnellement très bien, qui est voire même de la même famille, hein, avec eux, hein, quasiment, c'est un peu comme ça. Et après, donc là, en effet, il va pouvoir frapper à la porte en disant, bah voilà, bah oui, ok, je te donne 500 000 euros déjà, etc., etc. Mais il faut savoir aussi, parce que je pense que le grand public l'ignore également, c'est-à-dire qu'un film aujourd'hui, il y a tellement, bon, déjà, les coûts ont vachement augmenté, hein, c'est-à-dire que les films coûtent maintenant quand même très, très cher. Quand on voit Tirailleurs, par exemple, a coûté, je crois, 11 millions d'euros. Donc, et quand on voit le film, on se dit, tiens, ils sont où les 11 millions d'euros? Enfin, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, 11 millions d'euros, il faut quand même les trouver. Et ben, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont donné de l'argent. Voilà, il y a les chaînes télé, il y a les distributeurs, il y a une région, il y a une autre chaîne télé, etc. Donc, ça met un temps fou, en fait. Parce qu'il faut convaincre tout le monde. Il faut convaincre tout le monde, et on revient encore au cas de figure que moi j'ai voté au CNC, c'est-à-dire que pour convaincre tout le monde, il faut le consensus mou et se dire c'est un sujet qui ne va heurter personne, ça va plaire à tout le monde, et en voulant plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Ça, c'est archi connu. Mais voilà, mais néanmoins, pour avoir de l'argent comme ça, avec beaucoup, beaucoup de, je dirais, de guichets où on peut avoir l'argent, ben on cherche à plaire à tout le monde, on cherche à faire des films au consensus totalement mou, et ça prend des années. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un film qui sort en salle, très souvent, moi j'ai entendu parler du scénario peut-être 5-6 ans auparavant. Donc voilà, donc c'est redoutable. C'est-à-dire que quand on va aujourd'hui, quand on veut faire un film dans le système aujourd'hui, bah souvent il faut se dire bah ça va me prendre au moins 5-6 ans. Si ça marche. Parce que je ne parle pas de tous les films qui se viandent, évidemment, qui commencent à être... Il y a un petit financement, mais on ne va jamais au bout. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui vivent comme ça, où ils vendent un scénario, ils vendent un projet qui ne se fera jamais, mais néanmoins, ils arrivent à en vivre. Ça aussi, ça fait partie de l'exception culturelle française.
C'est-à-dire, vendre un scénario à des producteurs, qui visiblement se font payer le scénario, peut-être pas le CNC, c'est possible, je sais pas.
Bien sûr.
Ah oui, c'est ça en plus.
Non, c'est ça. Bien sûr, c'est complètement ça, bien sûr.
Donc, c'est bon, ça. Voilà. Donc des gens avec l'argent des autres achètent des scénarios.
Exactement, et tu peux très bien en vivre. Oui, exactement, tu peux très bien en vivre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont scénaristes, ils n'ont jamais eu un scénario qui a fini en film, mais néanmoins, ils vivent grassement, ben voilà, parce qu'on leur a payé des scénarios, etc. Donc, c'est un système un peu qui tourne, mais voilà, un peu…
C'est un système de fou, en fait. C'est l'administration française, j'ai l'impression que c'est l'État, quoi.
Absolument. Et donc, c'est-à-dire qu'en plus, là, on parle cinéma, mais télé, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que les chaînes télé, ils dépensent parfois des fortunes pour des trucs qu'on ne verra jamais. Ils vont payer des scénarios sur une série utopique en disant, tiens, ça peut… peut-être plaire, etc. Mais en fait, le machin, il est abandonné, laissé
dans un... Pourquoi c'est abandonné ?
Et parce que souvent, parce que c'est abandonné très, très, très souvent, parce que les gens qui détiennent le pouvoir sur une chaîne télé, eh ben, ils sautent tout d'un coup, voilà, parce que des raisons politiques assez obscures, on va en mettre une autre. Voilà. Et après, bien sûr, cette autre personne qui arrive derrière la précédente, ben, elle pousse tous les dossiers à la poubelle, elle va mettre les siens. Et donc, si toi, tu fais partie des malheureux dossiers qui étaient auparavant là, qui étaient déjà en pré-production, parce que moi, je parle de ce cas-là parce que ça m'est arrivé personnellement, tu vois. Voilà, j'étais prêt de faire une série. La personne qui m'avait, c'était pour France 2, qui avait, je devais tourner à telle date, même tout était archi prévu. Cette personne saute pour X raisons, à la con. Et ben voilà, donc le truc il tombe à l'eau. Et néanmoins, voilà, l'argent avait été dépensé dessus, etc. Donc il y a aussi une gabegie d'argent épouvantable à France Télé. C'est un truc de fou. Et je parle de France Télé, mais je ne parle pas également aussi de M6 et TF1. C'est pareil. C'est-à-dire qu'ils jettent l'argent par les fenêtres. C'est un truc de fou.
Mais ça, c'est important que le grand public sache comment ça marche, ce cinéma français. Et on voit que là, pour le coup, on a l'impression que ça marche sur la tête, en effet. Quoi. C'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de logique derrière.
Non, il n'y a aucune logique. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'argent en jeu à cause de toujours, je reviens toujours à ça, de cette exception culturelle française, c'est-à-dire que l'argent, il est injecté, il est là, l'argent. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et évidemment, bah, tout le monde veut en profiter. Donc, il y a bien sûr les premiers servis qui sont toujours les mêmes, hein, évidemment, dont Gérard Jugnot, par exemple. Et voilà. Donc, mais ensuite, bah, vous voyez, après, il y a une seconde couche, les gens qui veulent profiter du gâteau, mais qui n'auront que les miettes, hein. Voilà. Et après, il y a carrément les miséreux qui vont profiter des miettes. Voilà. Ça se passe comme ça. Mais il y a une grosse dialecte au départ. Une grosse dialecte qui est là.
Mais est-ce que ça signifie que, comme il y a beaucoup d'argent?
Oui.
Est-ce que ça signifie que comme il y a beaucoup d'argent, on pourrait, si on répartissait mieux, si on était peut-être plus intelligent, si le système était plus performant, concurrencer les Américains, par exemple, sur le cinéma ?
Ben, bien sûr, mais j'en suis même certain. C'est-à-dire que il y a une époque qui n'est pas si vieille que ça, où les films français remportaient des succès énormes, quoi, en France, même à l'étranger. Donc, mais d'ailleurs, c'est quand même marrant, c'est-à-dire que c'était du moment où est apparue cette exception culturelle française à l'époque de Jack Lang et Mitterrand, c'est là où ça se met en place. Les films français ont perdu cette aura, je dirais, internationale. Avant, les films avec De Funès, Bourville, etc., ils vendaient partout dans le monde entier. Parce que voilà, il y avait vraiment une valeur ajoutée, il y avait une touche française, etc., qui plaisait au monde entier. Aujourd'hui, évidemment, voilà, c'est pareil, c'est-à-dire que les films ne se font plus pour le public, ils se font pour obtenir des subventions. Donc, évidemment, et je dirais que le public s'en fout, ça. C'est pas, le public, il cherche à avoir des films intéressants. Donc, basta. Et tant qu'on reste dans cette optique, on fait des films pour obtenir des subventions, le cinéma français restera un cinéma assez merdique, dans l'ensemble. Je ne dis pas que tous les films sont merdiques, évidemment, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais néanmoins, c'est ce système qui permet ça, qui, voilà, hélas, c'est parce qu'on cherche à avoir de l'argent, des subventions, et pas à avoir un public.
Est-ce que les plateformes type Netflix, Disney+, je sais pas, Amazon Prime, peuvent être des bouffées d'air frais pour le cinéma français? Est-ce que, par exemple, sur cette plateforme, d'abord, est-ce qu'on est plus libre?
Alors, tout le monde l'a cru au départ. Je me souviens, il y a ça, 5-6 ans, par là, on disait Netflix, c'est formidable, tu peux envoyer un scénario, ils produisent plein de trucs, ils injectent énormément d'argent, etc. Et on a vu, hélas, bon, enfin, moi, je me suis abonné à Netflix et maintenant, je regarde quasiment jamais, quoi. C'est-à-dire que tous les films se ressemblent, c'est du bourrage de crâne absolu, c'est même plus des films, c'est que des éléments de propagande uniquement, c'est-à-dire que c'est vraiment épouvantable. Donc je pense qu'ils ont été phagocytés par le système également et qui ne produisent que des films en fait de propagande en réalité pour faire avancer leur pion. Donc et d'ailleurs ça se ressent, hein, je crois que Netflix commence à perdre pas mal d'abonnés. Donc voilà, donc je pense qu'ils vont devoir réviser un peu leur stratégie parce que ça reste quand même une entreprise qui n'est pas subventionnée en fait, donc ils doivent quand même plaire à un certain public. Bon, ils ont un monopole quasiment presque. Bon, il y a bien sûr Amazon et Disney en effet, mais ils font tous partie du même groupe, je dirais, quelque part de toute cette oligarchie mondialiste. Donc évidemment, même s'ils se tirent la bourre, ils sont quand même tous du même côté de la force obscure, je dirais. Donc voilà, je pense que ça va être très difficile de faire bouger les choses. Sauf que, évidemment, la grande, aujourd'hui, ce qui se passe quand même, c'est-à-dire que les moyens techniques nous autorisent à faire des films de manière beaucoup plus simple. Si moi j'ai réussi à faire Le Monde d'après comme ça, sans avoir de subvention, c'est parce qu'il y a les moyens numériques. On arrive à tourner aujourd'hui pour très très peu d'argent en fait. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui commence à émerger un cinéma, je dirais, beaucoup plus libre. Mais voilà, donc ce qui manque maintenant, ce sont les tuyaux pour voir ces films-là. Mais je pense qu'il y a pas mal de cinéastes qui veulent avoir un discours différent. Et je suis certain qu'il y a également, d'ailleurs, mon film, c'est la preuve, il y a un public pour ça aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais, c'est la plus grosse difficulté, c'est de trouver les moyens pour les diffuser. Mais ça bouge aussi, là aussi, pareil, parce que là, je sais pas, j'évoquais au départ que mon film va être sur une plateforme VOD bientôt, mais c'est une nouvelle plateforme, en effet, donc voilà, qui veut se lancer dans des films différents, etc. Donc je pense qu'il y a, comme il y a un besoin quand même, du large public pour voir des films autres, bah, je pense que voilà, après, la loi du marché fait en sorte que ces films-là vont bientôt arriver.
Mais il y a aussi bon, alors, y a le sujet du monde d'après, qui est sur la crise sanitaire, mais il y a aussi des sujets sur lesquels, sur ta chaîne YouTube, la chaîne YouTube, c'est Les Films à l'arrache, où, mine de rien, tu tires à boulet rouge sur le progressisme, pour le coup.
Tout à fait. Non, c'est sûr, hein, parce que même, je dirais, dans le monde d'après également, j'écratigne un peu ce progressisme, tout ça, parce que selon moi, tout ça, ça fait partie du même monde d'après, de la même idéologie. Hein. C'est-à-dire que ceux qui nous ont poussés dans cette folie sanitaire, ce sont les mêmes qui nous poussent également dans la folie woke, la folie progressiste, etc. Donc je pense que c'est toujours cette oligarchie, ce sont des gens qui ont le pouvoir, quand on voit à tel point tous ceux qui détiennent le pouvoir tant politique, médiatique et également financier nous poussent à être toujours dans cette idéologie progressiste, sanitaire, etc. Ce sont les mêmes, hein, donc je pense qu'ils ont, c'est évident, ils ont le même intérêt et je pense qu'il faut vraiment réagir à ça et dénoncer ça.
C'est-à-dire que sanitaire, Ukraine aussi par exemple, woke, c'est le même monde, la même vision,
mais complètement,
la même propagande.
Exactement, c'est-à-dire que là, on nous a fait peur avec une maladie on nous a fait peur, voilà, on va nous faire peur également, mais ça depuis pas mal d'années avec la planète qui va bientôt disparaître, brûler, etc. Après ça va être la guerre qui va arriver en Europe, après ça sera la pénurie de tout, on va donc mourir de faim, il n'y aura plus d'eau, etc. Constamment, on cherche à nous faire peur. Ce sont toujours les mêmes qui cherchent à nous faire peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réagir. Et à chaque fois, ils utilisent les mêmes moyens, quoi. On le voit bien à chaque fois. Donc, ils utilisent les moyens des médias, de la fiction, hein. On le voit à tel point le nombre de films qui parlent de ça, justement, de la crise la crise sanitaire. Non, pas trop, parce que ça, c'est quand même de touchy, donc les mecs hésitent. Mais néanmoins, il y avait des films, déjà auparavant, des films américains, je me souviens, qui parlaient de l'arrivée d'un virus terrible qui allait ravager la planète, etc. Après, il y a eu des films catastrophes aussi, où tout brûle, tout devient glacial. Enfin, il y a eu de tout, des films catastrophes en pagaille, comme ça. Donc, c'est constamment le même discours. Nous faire peur, bah, pourquoi ? Bah, pour nous domestiquer, hein, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que rien n'est plus simple à domestiquer qu'une personne qui est tremblante de peur.
Mais entre le moment où toi, tu as commencé comme réalisateur et aujourd'hui, tu sens une différence parmi les réalisateurs, les acteurs, leur façon de penser entre l'ancienne génération et aujourd'hui, entre par exemple la génération Catherine Deneuve et au-delà, et celle d'aujourd'hui, tu sens quand même qu'il y a une différence, d'intellect, même de vision.
Après, non, je pense pas parce que, en effet, bien sûr, les générations, elles pensent différemment, mais également, à mon avis, ce n'est pas seulement uniquement chez les comédiens. C'est bien sûr, c'est vraiment par rapport à tout le monde. Mais en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, en effet, le bourrage de crâne est beaucoup plus violent que de mon temps, hein, à l'école. Moi, franchement, moi, on m'apprenait pas grand-chose de point de vue idéologique, quoi. C'était plutôt, voilà, on t'apprend à lire, à écrire et à compter, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, en effet, je le vois bien à travers même les livres d'école, les livres scolaires de ma fille qui a donc 13 ans. Je vois à tel point le bourrage de crâne, il est incessant, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit partout, n'importe quelle publicité, dès qu'on ouvre la télévision, le bourrage de crâne est là constamment. Mais c'est un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment une maladie, quoi. Donc il y a un bourrage de crâne, un enfumage qui est constant partout. Et ça, de mon temps, dans ma jeunesse, il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas marqué sous n'importe quelle publicité. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis allé voir un film, c'était marqué sous une publicité. Attends, c'était pour une pub pour une voiture, c'était marqué préférer la marche à pied. C'était marqué en dessous, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a plus c'est pour la bagnole, c'est marqué préférer la marche à pied. Ça, il y avait une autre bagnole, c'était marqué oui, mais attention, préférer le covoiturage. Après, il y avait un truc où c'était la bouffe, mais attention, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est-à-dire que tout le temps, constamment, on nous prend pour des enfants. C'est-à-dire que voilà, attends, c'est vraiment, c'est, on veut nous infantiliser, nous rendre totalement crétins et idiots. Et voilà, c'est pour ça, à nouveau, je pense que c'est du domaine de ça. Je dirais que c'est vraiment le but de l'artiste, c'est ça, c'est de parler du réel et de dénoncer les choses, voilà, pour qu'on puisse réagir, qu'on ne peut pas se laisser faire à ce point-là. Quoi. Ça va trop loin, ils sont allés trop loin, je pense.
Oui, mais regarde, avant, bon, pour prendre les années 80, tiens, ouais. je ne vais même pas aller à la génération Ventura, Yves Montand, qui avait des consciences, on va dire, politiques, bon, qui étaient les leurs. Mais on a eu, par exemple, des Coluche, des Le Luron, des Balavoine, bon, d'ailleurs, qui sont morts tous les trois la même année, bon, bizarrement. Oui. Bon, bizarrement. Ouais.
Mais, bizarre.
Et voilà, c'est pas pourquoi. C'est comme ça, ils sont morts. Écoute, les voilà. Trois sont morts la même année.
Coïncidence.
C'est une coïncidence. Comment se fait-il qu'il n'y a plus des profils comme cela aujourd'hui?
Je pense qu'il n'y a plus de profils comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on voit les gens qui sont sous les feux des projecteurs. C'est vrai qu'ils sont tous totalement obséquieux par rapport au système d'une manière folle. On a tous en tête l'image de François Cluzet avec, bien sûr, notre cher président Macron, hein, à quel point il s'est montré obséquieux et totalement ridicule, à l'Élysée, je crois que c'était. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a... Parce que je pense que cette élite artistique, bon, je l'appelle élite franchement avec une certaine ironie, est tellement déconnectée du réel, ils vivent dans leur tour d'ivoire, mais néanmoins ils ont cette... en se disant, voilà, ils sentent bien que s'ils sont dans ce luxe et ce confort, ce n'est pas grâce au public, hein. C'est grâce seulement au pouvoir. Donc évidemment, ils deviennent les valets du pouvoir. Donc, on en revient encore à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que quand on cherche un film, on cherche à avoir en effet l'assentiment du pouvoir pour les subventions et non plus l'assentiment du public. C'est-à-dire que maintenant, je crois, un comédien qui serait adulé par le public, il serait taxé d'être un populiste, voilà, un extrémiste, un méchant, voilà, parce que le peuple l'aimerait, ça serait pointable. Non, ce qu'il faut, ce sont des gens qui sont adoubés par le système, qui sont là, qui sont reconnus par Télérama et le pouvoir. En fait, en gros, c'est ça. D'accord, comme c'est eux qui détiennent les bourses, quelque part, qui vont leur permettre de garder ce train de vie, ce confort, parce que, comme je le répète encore une fois, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et évidemment, on ne veut pas, mettre une petite...
Oui, mais regarde, tu as des acteurs comme Danny Boone, par exemple, dont on a appris... qu'il a perdu, le pauvre gars, parce qu'il voulait échapper à l'impôt français, et donc il a donné son argent à un soi-disant fiscaliste, il a perdu 6 millions d'euros. Donc on a appris ce jour-là que M. Danny Boone avait une fortune de 25 millions d'euros. Bon, donc ils sont quand même riches ces gens-là, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent plus d'argent que leurs aînés qui n'étaient pas forcément producteurs. Bon, et pourtant, un Danny Boone... à 5 millions de près, de plus ou de moins, sa vie ne changerait pas. Il pourrait très bien dire, attendez, écoutez, je ne comprends pas que pour voir mes films, les gens doivent donner un pass sanitaire. Mais pourquoi, du coup, ils ne le font pas?
Mais parce que voilà, c'est-à-dire que chez ces gens-là, qui sont des gens qui sont animés par une ambition... immense, une ambition, surtout une avidité d'argent épouvantable. C'est-à-dire qu'en effet, avoir 5 millions de plus de moins, pour nous, en effet, ça serait... J'ai jamais eu 5 millions d'euros sur mon compte. Je me rends même pas compte. Mais chez un Danny Boone, c'est évident que ça compte. Il a envie de les avoir, même s'il ne cherche pas à les dépenser, il veut les avoir. Donc, il est prêt à tout pour ça. Il est prêt à tout pour ça. Et il sait très bien que cet argent-là, ça va dépendre du pouvoir.
Oui, mais, est-ce que tu penses sincèrement, voilà, toi tu connais ce milieu, tu es réalisateur, est-ce que tu penses que si environ 10 Danny Boone, je connais pas forcément les acteurs français, on va dire, mais 10 calibres de Danny Boone. On va dire oui. Danny Boone, Patrick Bruel, je sais pas moi. Kadmerad, des gens comme viennent à la télévision et disent, tous ensemble, unis, ils disent, écoutez, nous ne voulons pas que les gens utilisent un pass sanitaire dans nos cinémas. Est-ce que tu penses que le pouvoir derrière va les sanctionner?
Non, s'ils sont plusieurs comme ça, à mon avis, non, le pouvoir, il serait quand même
sacrément. Donc, pourquoi ils ne le font pas?
Bah parce que voilà, donc c'est comme c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'on en revient toujours à ce cas de figure qui est très bien décrit dans ce film admirable, qui est 12 hommes en colère. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire, c'est un voilà, ils sont 12 jurys pour savoir si un tel va être condamné à mort ou pas, s'il est coupable ou pas. Et il y a 11 qui disent, oui, a priori, ça me semble comme ça. Il y en a un, voilà, qui prend le courage de dire, non, moi, je trouve que les preuves sont insuffisantes et je monte au créneau. Et ce premier gars, en effet, il doit après convaincre tout le monde petit à petit. Et je pense que voilà, ce qui manque, c'est ça, c'est quelqu'un qui a assez de courage pour se dire, je sors du lot. Je vais dire autrement, différemment. Hein. De toute façon, cette crise sanitaire, ça a été un peu une expérience de 1000 grammes. Je pense que tout le monde connaît cette expérience grandeur nature. Donc, on a vu en effet que l'expérience était tout à fait vraie. Et je crois me souvenir qu'à peu près, il y avait, 10 à 15% seulement des gens qui ont résisté à cette expérience de 1000 grammes, qui n'ont pas été justement complètement télécommandés par leur peur et par, etc. Donc, c'est très, très peu. Donc, en effet, à mon avis, plus on a de choses à perdre, si on fait partie de la haute classe bourgeoise, évidemment, on a beaucoup de choses à perdre, donc évidemment, on va encore moins monter au créneau. Quand on n'a plus rien à perdre, je dirais, on peut y aller un peu plus franchement, Mais là, évidemment, donc ils font partie de cette bourgeoisie, donc ils sont truffés de privilèges. Je les vois très très mal prendre le moindre risque. Parce qu'ils se disent peut-être que je risque de les perdre. Donc ils préfèrent être parfaitement soumis et rester dans leur appartement de 500 mètres carrés à Avenue Guillemère à Paris. Hein. En gros, voilà.
Alors, revenons sur ton film, parce que c'est ça qui intéresse aussi. Alors, n'hésitez pas à continuer à rejoindre. Vous allez sur le rejoindre, vous cliquez, et puis vous aurez plein d'avantages géopolitiques profondes. Devenez membre du club géopolitique profonde. On a cogité tout Noël et jour de l'an pour vous offrir ça. T'as vu le truc. Donc, dis-moi, cher Laurent, comment on fait pour réaliser un film comme Le Monde d'après? Comment on écrit le scénario? Comment on le tourne? Tiens, d'ailleurs, comment aussi on le tourne? Comment on arrive à caster tous ces comédiens? Et puis, raconte-nous un peu.
Moi, je n'ai fait que du cinéma dans ma vie. Hein. Je vais avoir 60 ans bientôt, donc ça fait à peu près 35 ans que je fais ce métier-là. J'en ai jamais exercé un autre. Donc, je dirais que je suis un peu un vieux routard là-dedans et j'ai exercé à peu près j'ai occupé tous les postes dans le cinéma. Donc c'est vrai que je peux cadrer, je peux prendre le son, je peux monter, etc. Donc ça, tout ça, je sais faire. Donc évidemment, pour moi, c'était quand même plus simple. Je me suis équipé en matériel parce que, comme je le disais auparavant, je voulais garder toujours cette liberté à côté de mes films de commande, vraiment les vrais films du système pour la télé, etc. Mais à côté, je faisais des courts-métrages, donc je me suis équipé en matériel. Et également, parce que comme ça fait 35 ans que je fais ce métier-là, donc évidemment, des comédiens, j'en connais énormément. J'en connais énormément, énormément. C'est un immense plaisir pour moi d'en avoir autant comme ça qui sont sous la main. Et quand j'ai eu l'idée de faire ce film, je savais donc pertinemment que je n'aurais aucune thune, de toute façon je n'ai même pas cherché à en avoir, mais je suis parti du principe en me disant, si je veux réaliser un film qui soit possible à faire, je vais en fait me dire qu'est-ce que j'ai à ma disposition, moi, là maintenant, là, tout de suite, là, sans que je demande rien à personne. Alors, j'ai le matériel, j'ai des amis acteurs, j'ai des potes aussi qui peuvent m'aider à la technique, tout ça j'ai. On tourne où? On va tourner principalement chez moi ou chez des potes aussi. Et donc tout ça, je l'avais sous la main. Donc évidemment, j'ai limité tout mon monde imaginaire, je dirais, à ce que je pouvais avoir réellement dans le monde réel. Donc c'est pour ça que après le film a été, je dirais, très 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 simple à faire parce que j'ai pas cherché à avoir des choses que je n'avais pas d'office, à ma disposition. Donc voilà, donc le film s'est vraiment tourné dans une facilité absolue. Non, vraiment la plus grosse difficulté après coup, en effet, c'était de trouver des salles qui veulent bien montrer le film, parce que voilà, c'est un film qui a été fait hors système, donc évidemment il sort un peu de nulle part, hein. Donc mais voilà, donc néanmoins,
donc aujourd'hui il y a de moins en moins de salles comme celle de Saint-Michel. Oui. C'est plutôt des Gaumont, des Paramount, des choses comme ça.
Ce sont des groupes, hein, ce sont des alors ça, évidemment, moi, mon film ne passera jamais dans les salles style UGC, etc., ou Pathé, parce que principalement d'ailleurs les salles UGC par exemple, ils vont prendre des films qui sont déjà produit par eux. Non, comme moi, je ne suis pas produit par eux. Voilà, c'est comme UGC met de l'argent sur un film français, il le prend dans ses salles, en fait. Ça, c'est logique. Donc, mais des salles comme ça, d'art et essai, un peu, qui ont, qui peuvent avoir une certaine liberté quant à leur programmation, il y en a de moins en moins, c'est vrai. Mais il en reste quand même, parce qu'on a un tissu de salles en France quand même assez... assez vaste.
Et donc, du coup, tu fais aussi la tournée, une tournée.
Complètement. Non, mais d'ailleurs, c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que là, pour ce film-là, j'ai occupé quasiment tous les postes, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire le film, je l'ai tourné, je l'ai monté. Après ça, je me suis occupé en tant que distributeur. Donc, je suis allé voir les salles de cinéma, j'ai envoyé le film. Et maintenant, je m'occupe de la promo, je fais les débats, j'accompagne le film. Donc, Je suis souvent là à Paris pour débattre avec le public. Je suis également très souvent en visio dans des salles en province pour parler avec le public également, parce que c'est un film évidemment qui est quand même propice à ça, hein, qui est vachement propice au débat, parce que les gens se retrouvent.
Parce que dans ce film, on parle. C'est un peu un pamphlet sur la crise sanitaire, sur les rapports humains liés à la crise sanitaire. La religion aussi, à vous donner, il y a la religion. On a un monsieur qui se convertit à l'islam et il explique pourquoi il se convertit à l'islam. Et je trouve l'analogie excellente pour le coup. Voilà. Il y a nombre de thématiques où tu ne prends pas de pincettes sur le coup.
Ah non, bien sûr. Non, mais je voulais, c'est pour ça que le film s'appelle Le monde d'après, parce que dans ce monde d'après, on est tous les jours éberlué par toutes les folies qui arrivent, quoi. Donc je pense que, voilà, il fallait en parler, parce que quand on voit que le cinéma français, on le voit de toute façon, le cinéma français aujourd'hui, c'est quoi? C'est soit des comédies un peu style Plancha et compagnie, qui se situent toujours dans un monde un peu utopique, hein, je dirais, un truc qui n'existe pas vraiment, où les gens se disent mais ce monde-là n'existe pas. Les gens ne sont jamais au chômage, voilà, tout le monde est plutôt assez riche, il n'y a aucun problème sociétal, etc. Donc voilà, c'est une sorte de paradis un peu absurde. Ou alors, il y a des films à caractère social, engagé, mais on remarque toujours avec curiosité qu'ils traitent de sujets qui sont complètement has-been, en fait. Hein, c'est-à-dire que complètement, c'est-à-dire que comme là, il y a eu le film sur Malik Houssekine. Alors, Malik Houssekine, c'est arrivé il y a 30 ans. Ils ont ressorti un film sociétal sur la lutte pour l'IVG. Je crois que le combat est gagné depuis très, très, très longtemps aussi. C'est pareil. Donc ils sont toujours dans un monde parallèle. Mais en fait, il n'y a aucun film qui parle du monde réel d'aujourd'hui. Et moi, je voulais revenir un peu à un cinéma qu'on voyait assez souvent dans les années 60 et 70, notamment dans le cinéma italien, où il y avait un vrai film, des vrais films, même je dirais c'était souvent des comédies, des films à sketch, très 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 souvent, mais qui parlaient du monde réel.
Avec Mastroianni et tous les acteurs italiens. Mais justement, toi, quelle est ta référence, toi, au niveau du cinéma? De quel cinéma t'es-tu inspiré?
Là, pour Le Monde d'après, c'est clair, je me suis inspiré des films, des comédies italiennes de la grande époque, hein, comme les films Les Monstres, Les Nouveaux Monstres, avec Tognazzi, Gaspin, etc., où il y avait des films vraiment, c'était des comédies, mais des comédies grinçantes qui parlaient du monde réel, du monde actuel, et pas un truc qui voulait nous enfumer ou parler de choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que c'était de vrais films à caractère social, mais en même temps drôles et agréables à voir, mais qui avait vraiment un message derrière. Et je trouve que ce cinéma engagé, et pourtant grand public, a complètement disparu. Complètement, mais complètement.
Même en Italie, pour le coup.
Même en Italie, et même, je dirais, partout en Europe. Hein. Même aux USA. Même aux USA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive toujours à des films C'est-à-dire que les films, en fait, échappent au réel. C'est-à-dire que comme on sent bien que tout ce système, tous ceux qui détiennent l'argent et le pouvoir, ils veulent en fait nous soumettre et pour nous soumettre, ils essaient de nous faire avaler des couleuvres. Hein. Donc, on essaie de nous masquer le réel. Donc, je pense que le but principal du cinéma, c'est de montrer le réel.
Alors, toi, tu fais les débats après la projection de ton film. Qu'est-ce que te disent les gens en général ? Quelles sont les questions qui reviennent le plus, ou les commentaires peut-être qui reviennent le plus ? Bah,
les commentaires, là, les premiers commentaires, bon, on va me dire, putain, il a grosse tête le mec, etc. Non. Tu es un génie, Laurent. Non. C'est extraordinaire. Non, franchement, sérieusement, on me dit merci d'abord. On me remercie parce qu'on me dit, putain, mais je ne pensais pas qu'un tel film pouvait exister. Alors ça, c'est le truc qui revient tout le temps. Les gens sont super surpris, étonnés, agréablement étonnés qu'on puisse parler de tel sujet avec une telle ironie, une telle distance sur les choses aussi. Et ce qui revient comme question principalement, ils me disent la majorité du temps, comment est-ce qu'on peut vous aider pour que le film soit plus vu ? C'est vraiment adorable, c'est super gentil. Hein. C'est-à-dire, d'ailleurs, je tiens à dire, je remercie mille fois le public parce que si j'obtiens des salles en province, c'est grâce à lui. Quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent voir des salles, qui disent voilà, il y a un film qui est vraiment top, il faudrait que vous le programmiez. Et ben, les salles, parfois, elles réagissent et disent oui. Donc voilà, donc c'est vraiment le public qui fait le boulot de distributeur. Et je trouve ça assez, c'est super touchant. Moi ça me. Franchement, c'est top. Quoi. De toute façon, Mike, tu m'as dit que tu allais deux fois, tu vois. Et voilà. Donc, et en effet, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir un film deux fois. Bon, j'en ai eu trois, même quatre fois. Donc voilà. Donc, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir parce qu'il y a un engouement qui est complètement sincère. Quoi. C'est-à-dire que ils sont pas là à la recherche d'une star, etc. Parce que ce sont pas des comédiens super connus. Hein. Ce sont des gens qu'on peut voir, en effet. Souvent quand même à télé, star ou au cinéma, mais qui n'ont jamais eu des premiers rôles. Mais c'est les sujets abordés, la façon de les aborder qui fait que les gens se disent « Putain, oui, d'accord, ok, oui, on peut faire ce genre de film, quoi. On peut en parler, on peut enfin le voir. » Et également, ce qui me touche énormément, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient plus remettre les pieds dans une salle de cinéma et qui sont revenus. Et qui sont revenus parce qu'ils se disent, voilà, il y a enfin un film qui parle de nos problèmes, des choses qui nous ont vraiment touchés, heurtés dans notre chair. Et là, le film en parle avec humour, en effet, mais il en parle. Il en parle de manière crue, en plus. Il ne sent mâcher les mots. Et ça, je pense aussi également, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit merci. Voilà, grâce à vous, on a remis les pieds dans une salle de cinéma. Et ça, je trouve ça aussi super touchant et chouette.
Sans trahir de nom, est-ce que des acteurs un peu connus avec qui tu as travaillé sont venus voir le film, même sous masque ?
Oui, il y en a.
Et qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tiens, pour le coup ?
Non, ils m'ont dit non, et même il y avait des matrixés. 100%, il n'a pas dans le métier, il y a un gros paquet. Voilà. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que le film, comme on le disait auparavant, comme il n'est pas premier degré et rentre dedans et manière. Je voulais pas faire un film procès. On dit attention, vous êtes les méchants et nous, on est les gentils. Non. Voilà. Donc, ils se sont un peu remis en question. Hein. Souvent, ils ont un peu ouvert les yeux aussi sur tout ce qui s'était passé auparavant. Et c'est vrai que, comme c'est fait avec humour, hein, donc il y a eu cette distance là qui fait que ils ont pu rire d'eux-mêmes.
Mais est-ce que justement des gens qui sont un peu matrixés comme ça, en voyant le film, ils se disent pas au final? Ouais, quand même, les deux ans qu'on a vécu, je sais pas, avec les auto-attestations, ou par exemple, la première scène, c'est un pharmacien qui est fier d'avoir créé un pistolet balanceur de doses. Donc d'injection. Bon, est-ce que ces gens qui sont matrixés se disent quand même, en effet, on est peut-être allé un peu loin?
Ouais, je pense. Ils vont peut-être pas le dire aussi. Clairement comme ça. Mais c'est clair que quand même, il y a une petite faille, quoi. Le film amène une petite faille chez eux en disant peut-être qu'on est allé un tout petit peu trop loin, on a poussé le bouchon un tout petit peu, hein, bon. Donc voilà. Donc je pense que le film, je dirais, il va pas convaincre, les gens ne vont pas tout d'un coup, ceux qui sont matrixés à 100%, ils sont encore avec deux masques, les gants, etc. Bon, je pense que là, c'est irrécupérable. Mais néanmoins, les gens qui se sont laissés un peu embarquer comme ça, sans trop y penser, en disant je regarde BFM et j'y crois, ben, là, à mon avis, le film les aide aussi à se dire peut-être que je me suis fait un tout petit peu avoir. Alors évidemment, je sais que c'est pas évident de se l'avouer à soi-même, forcément, hein, si on s'est dit voilà, on m'a pris pour un con pendant 2 ans et moi j'y ai cru, donc c'est quand même dur aussi à avaler. Donc évidemment, mais je pense que c'est un travail de longue haleine et le film en fait partie. Je pense que ça peut être mais déjà une étape pour eux.
Bien sûr. Mais est-ce que malgré tout, toi tu t'es dit, c'est quand même le monde d'après, sans parler forcément du film, qui s'appelle ouais. Le monde d'après, mais est-ce que tu t'es dit, on rentre quand même vers une société d'esclavage?
Bah oui, c'est-à-dire que en plus c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que autant l'esclave à l'époque de la Rome antique par exemple, bah voilà, donc on était prisonniers, on était fait esclaves, voilà, c'était malgré nous. Et comme ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que les pires censeurs aujourd'hui, ce sont les gens qui s'autocensurent. Mais je crois que maintenant aujourd'hui, les pires esclaves, ce sont ceux qui sont eux-mêmes, qui se mettent esclaves eux-mêmes, quoi, sans avoir un maître derrière eux qui agite un fouet. Donc c'est ça qui est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'on arrive à un état totalitaire tellement puissant à cause de ce bourrage de crâne, de cet enfumage qui est justement constant, de cette propagande qui nous troue le cerveau, qui fait que il y a beaucoup de gens qui deviennent des esclaves, mais volontaires, quoi. C'est ça qui est vraiment terrible, parce que ça sera beaucoup plus difficile à libérer. Autant un esclave.
Mais tu penses que c'est le bourrage de crâne? Parce que si demain la télé dit, écoutez, pour vous sauver, parce qu'il y a des particules cancérigènes sur les billets de 50 euros, il faut tous nous les envoyer contre rien. Est-ce que tu penses que les gens le feront?
Bonne idée, ça, attends. Très bonne idée, ça m'a fait pas pensé. Pour financer mon prochain film, ça me paraît une excellente idée.
Non, mais... Débarrassez-vous de vos billets. Ils sont tous cancérigènes. Envoyez-les-moi. Pour vous. Non, mais je veux dire, si demain il y a un message comme ça du gouvernement, les gens vont pas envoyer leur billet, quoi. Il y a un moment donné où la propagande, bon, bah, les gens ils disent, bon, quand même, on me raconte des conneries. Donc, se laisser porter par la propagande, je trouve ça quand même bizarre. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours l'expérience de 2000 grammes. C'est-à-dire que il y a un moment donné, très vite, des gens vont se dire attention, là, on nous prend vraiment pour des cons. Mais il y en a plein d'autres. Non, pas du tout. C'est-à-dire que voilà, non, c'est pour notre bien. Certainement, les gens qui font ça, ils savent vraiment, vraiment ce qu'ils font. Ce sont des experts. Ce sont voilà. Ils ont plein de diplômes, voilà, ils ont une petite blouse blanche, c'est formidable, ils parlent à la télé, c'est impeccable. Donc les gens, sans trop se poser de questions, ils vont se dire, voilà, non, c'est bon, c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment terrible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de remise en cause du système, quoi, en fait, du discours officiel. C'est-à-dire que les remises en cause, aujourd'hui, de toute façon, on le voit dans la presse, s'il n'y avait pas une presse alternative comme ici où on est, là, je dirais, mon Dieu, ça serait épouvantable si on n'avait que du BFM ou du LCI, on est mort.
C'est sûr. Alors, voilà. Tu vas bientôt lancer Le Monde d'après 2, la suite. Donc, le film a tellement marché qu'il y aura un deuxième.
Exactement.
Il y aura encore plus d'acteurs, plus de scènes. Est-ce qu'il y aura peut-être des nouveaux sujets?
Bien sûr. Bah, oui, complètement, parce que ce monde d'après... N'en finit pas de nous surprendre. Et donc, bien sûr, il y a plein de sujets qui vont être évoqués, donc, notamment la crise climatique, énergétique, la guerre en Ukraine, tout ça, enfin, plein de sujets, oula, brûlants, très, très, très dangereux, impossibles à évoquer nulle part. Et donc, moi, voilà, j'y vais, hein, billet en tête, sans aucun problème. Je m'autorise tout, en fait. Oui.
C'est-à-dire que le film sera encore plus transgressif. Là, tu t'es dit, allez, oui, coup de pincette, on y va.
Là, voilà. Allez, là, j'y vais. Là, je m'en fous. Là, j'y vais bien en tête. J'en ai rien à carrer. J'y vais à fond. Non, mais c'est vrai parce que ce 1 m'a quand même vachement boosté. Donc, je me dis, bah oui, allons-y, bien sûr, évidemment. Donc, le film, il sera aussi plus long. Il y a plus de comédiens. Il y a plus de sketchs également. C'est plus transgressif, c'est plus rentre dedans, voilà. Donc je pense qu'il y a, ça va faire encore plus réagir, voilà. Mais à mon avis, on en a besoin, quoi. On a besoin d'air frais, hein. Ça c'est certain, quoi.
En tout cas, merci beaucoup, cher Laurent. On a passé 1h15 ensemble, formidable. Hein. Excusez-moi, j'ai merci eu une coupure. Hein. Oui, oui. Je sais pas si c'est EDF. Il y a eu une coupure, bim, de tout, de wifi, ah, de tout, voilà.
Vladimir Poutine, hein, c'est ça, certainement.
Voilà, bon, monsieur Poutine, franchement, ce que vous avez fait, c'est pas bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le club Géopolitique Profonde, voilà, c'est en bas, c'est marqué rejoindre, et allez sur le nouveau site de Géopolitique Profonde, on a une formation d'1h34 gratuite, voilà, nous on fait les choses gratuitement pour que ben vous puissiez vous protéger, on va pas protéger mais on va dire connaître, avoir les informations sur le numérique, sur la monnaie numérique, sur la nouvelle société numérique qu'on veut nous imposer. Donc allez sur Géopolitique Profonde, le site, voilà, c'est gratuit, 1h34 gratuit. Merci beaucoup, cher Laurent. Et ben, j'ai merci vraiment beaucoup hâte de voir ce deuxième épisode du Monde d'après. Passez tous une excellente soirée et au prochain live. Salut, ciao.
Ciao.